soit rempli, mon frère.
Chargez vos batteries. Amen. Eh bien, ce matin, depuis quelque temps, on souligne l'importance de la foi. Combien savent que la foi, c'est le cœur de notre existence dans le Seigneur? Ce matin, nous voulons regarder un peu la foi d'Abraham, le père de la foi. Nous voulons regarder cela et nous voulons aussi regarder les deux côtés de la foi. La foi qui s'appelle être, la foi qui fait de nous enfants de Dieu, ce que nous sommes, notre identité, notre justification par la foi qui nous est donnée. Ça, c'est important, c'est la base, c'est l'essentiel. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, la foi. C'est la foi qui est agissante, la foi qui fait, la foi qui accomplit les choses, la foi dans votre vie qui se développe, qui est exercée. Donc, cette foi-là est assez importante. Il faut souligner les deux. Il y en a qui juste soulignent un côté et il y en a d'autres que c'est juste les œuvres. Et on sait que ça prend les deux. Vous savez, la vie chrétienne est une vie équilibrée. Des fois, des gens vont prendre une doctrine, un enseignement, et ils vont tellement prêcher dessus. Up to me. On va prier là-dessus. OK, je vais le prendre. C'est les gens NBC, hein? Ça prend un peu de temps. Toujours. Je suis sûr que l'apôtre Paul n'avait pas ces problèmes. Je vous garantis. La foi d'Abraham, votre foi. Dieu a déposé en vous la foi. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? C'est un cadeau. Il a déposé complètement en vous. Vous avez la foi de Dieu. Vous avez la foi qui vous rend acceptable, approuvé, aimé, justifié devant Dieu. Mais là, ce matin, nous voulons regarder aussi le côté faire, parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Fait que c'est un mariage des deux. Comme j'ai dit tantôt, il y en a qui vont mettre tellement d'accent sur un qu'ils oublient l'autre. La vie chrétienne, comme je disais tantôt, est une vie équilibrée. Nous ne voulons pas juste prendre un passage dans les Écritures et souffler ça, et puis finalement que ça devient quelque chose, l'Évangile et cette doctrine. Non, l'Évangile, c'est Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est ce qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Et Paul dit, je n'ai pas eu honte ou je n'ai pas caché de vous révéler tout le conseil de Dieu. Nous voulons tout prendre et il faut que ça soit équilibré. Hein? Il n'y a pas de hobby horse. Il y a des gens là que c'est juste, ils veulent juste vous parler de cela. N'est-ce pas? Nous voulons que ça soit équilibré pour que nous soyons équilibrés dans le Seigneur. Avant de regarder Abraham, j'aimerais vous parler un petit peu d'un homme de foi. C'était un missionnaire, pasteur, missionnaire. Son nom était bien connu dans le passé, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Son nom est William Carey. Il a été un Anglais, un Britannique, un pasteur, qui est allé aux Indes pour prêcher l'Évangile. Et puis quand vous lisez son histoire, il a fait les écoles pour les pauvres. Il a commencé une faculté de théologie aux Indes. Il a traduit une œuvre classique en hindi, dans leur langue, en anglais. Il a traduit au moins 7 dialectes, 7 langues aux Indes en anglais. C'est un phénomène quand vous lisez sa vie, ce qu'il a accompli. Et ce que je veux souligner, j'ai lu ça il y a quelque temps, quand il était jeune pasteur en Angleterre, il était allé à un conseil de pasteurs, une réunion de pasteurs, et il a proposé, il était un jeune homme, il a proposé à tous ses pasteurs d'aller en Inde pour prêcher l'Évangile pour que les perdus soient sauvés. Et un pasteur bien connu, probablement la porte-parole du conseil de ses pasteurs, un homme est John Ryland. Quand le pasteur William Carey a proposé ça à l'Assemblée, ce grand pasteur a dit ceci. Il dit, « Jeune homme, sit down. Asseyez-vous. Asseyez-toi. Vous êtes un enthousiasme. Et quand ça plaît à Dieu de convertir les païens, il le fera sans ton aide ni mon aide. » Ce n'est pas un compliment, cela. C'est un flac dans le visage. Hein? Et mais cet homme-là a bouleversé, on appelle le père des missions modernes. Son nom est, il y a une révérence à ce qu'il a fait. Enfin, quand vous lisez un peu son histoire. Donc, on voit qu'il avait une foi et on voit aussi qu'il voulait faire des choses. Et on a vu que Dieu a fait des choses par lui. Dieu a déposé en vous une foi. Il ne veut pas que vous le gardiez dans le tiroir. N'est-ce pas? Pas trop l'user, on veut le garder. Hein? On veut cacher le trésor des fois. Dieu a mis en nous, Dieu a déposé la foi de Jésus-Christ en nous. Et je prêche à moi-même ce matin, mais je prêche aux enfants de Dieu. Il veut et le Seigneur veille à ce que cette foi soit amenée à la maturité. Amen. Et qu'on ait de plus en plus de foi en Jésus-Christ. Pas une foi endormie, pas une fois, oh ben je l'ai utilisé cela une fois dans le mois passé ou il y a quelques années, puis je ne veux pas trop user. Non, le Seigneur veut que notre foi soit vivante, vibrante et agissante, utilisée tout le temps. Et Dieu, dans sa grâce, dans la Seigneurie de Jésus-Christ, il va permettre que dans la vie, que vous ayez les occasions d'utiliser votre foi. Amen. Et des fois, on pense, on est dans des périodes creuses, un temps difficile, et des fois, la raison, la logique dit, « Mais Dieu, où es-tu? » Le psalmiste a dit la même chose. Mais c'est justement où la foi commence à agir. C'est justement dans ces moments où on dit, selon sa parole, selon l'Esprit Saint en nous, « Seigneur, tu as dit, tu ne me quitteras jamais, que tu seras toujours avec moi. » Donc, on prend les promesses de la Bible, on prend la véracité des Écritures et ce que Dieu a dit, et on se tient ferme et on utilise notre foi. On confesse notre foi en Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre bouche. Dites-vous Amen. La foi de Jésus-Christ, c'est un bien, c'est le bien le plus précieux que le Seigneur peut nous donner. Je veux vous parler maintenant, je veux regarder un autre exemple biblique, c'est Abraham. Je veux juste aller dans Romains 4 et nous voulons voir ce que nous avons. Déjà, je l'ai souligné, mais dans Romains 4 et le verset 6, 16 plutôt. Romains 4 et 17. En parlant d'Abraham, aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce que je veux souligner dans ce verset 17, que Abraham, la Bible dit que Abraham, la foi qu'il avait, il crut à Dieu. On sait que, autre place, il dit, il croit en Dieu ou il a cru en Dieu. Mais savez-vous ce que c'est la vraie foi? La vraie foi, bon, finalement, il y a une foi que tout le monde croit en Dieu, n'est-ce pas? C'est déjà bien, on n'est pas contre ça, c'est merveilleux. Mais la foi qui bouge, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui nous sauve, la foi qui fait que Dieu est grand et vivant devant nous, c'est ceux qui croient Dieu. On croit ce qu'il dit, on croit ce qu'il est. Et vous savez, le plus grand miracle, c'est le moment, ça a commencé, ça a débuté dans notre vie, quand nous avons cru Dieu. Nous avons entendu l'Évangile, nous avons capté par notre esprit, et le message de l'Évangile est devenu tellement vivante, tellement près, tellement proche, c'est qu'on a cru Dieu. Et quelqu'un a dit que souvent, avant même de faire l'appel pour le salut, c'est que les gens, en venant, sont sauvés. N'est-ce pas, c'est un miracle, imaginez-vous, c'est que vous et moi, on est bénis, on est choyés, on a été élus, et puis il y a eu un moment dans notre vie où tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit, on a cru à cela, et on s'est donné à Dieu. Seigneur, ce que tu dis là est vrai. Ce n'est plus juste une histoire religieuse, ce n'est plus quelque chose que j'ai entendu parler du bon petit Jésus, ou du bon Dieu. Ça devient tellement personnel, c'est que ma foi est en lui. Et la Bible dit, en ce moment, ma vie est passée des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Je deviens un enfant de Dieu. Je suis baptisé en Jésus-Christ. Je suis baptisé dans le corps de Christ. Je suis baptisé dans le royaume de Dieu et ma vie est à jamais changée. Je suis maintenant équipé pour l'éternité. J'ai maintenant la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est grâce à lui. Tout cela, c'est un cadeau. Tout cela est donné. Et je bénis le Seigneur et je néglige jamais. Et on est constamment rempli de gratitude. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Et on devient rempli de louanges et de remerciements. Le Seigneur nous a sauvés. Eh bien, Abraham, il y a eu ce moment dans sa vie. Dieu s'est révélé à lui. On voit ça dans Genèse, on voit ça dans Romains, on parle d'Abraham. La Bible lui a dit, Dieu a dit à Abraham, quand il vivait parmi les païens, on ne sait pas comment Dieu s'est manifesté à lui, mais Dieu lui a dit, « Quitte ton pays, quitte ceux que tu aimes, et je vais t'envoyer vers un pays que tu ne connais pas, que je te donne. » Nous sommes fils d'Abraham parce qu'un jour, vous avez entendu la voix de Dieu, la voix vivante, ce qu'il y a de plus profond dans le monde. C'est la parole incarnée, c'est la parole en nous. Et Dieu nous a demandé de quitter ce monde. Vous êtes encore là, nous sommes toujours là. Oui, quitter, mais dans quel sens? De quitter ce monde. Il y a deux mondes, ceux qui suivent Jésus et ceux qui suivent eux-mêmes. Et le Seigneur, on a capté cette voix en dedans de nous. Enfant de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous fait signe de sortir de ce système. Et nous avons compris dans cet appel de Dieu, dans cette foi, nous avons compris que nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit, nous sommes des pèlerins. On est des voyageurs. Et la Bible dit aussi en hébreu qu'Abraham était quelqu'un qui cherchait, qui attendait une cité. Dans cette parole qui s'est révélée à nous, il a fait tellement un travail profond. Oui, on attend même une cité. J'attends pas Moncton. J'attends pas Paris, Londres. J'attends pas Washington, même... Loin de là. Je me recule de cela. Mais nous, enfants de Dieu, il faut penser à cela. Il faut que notre cœur s'ajuste à cela. Il y a quelque chose de préparé pour nous depuis toute l'éternité. Et Dieu s'est révélé à nous. Il nous a fait enfants de Dieu par sa parole. Cette parole a fait une nouvelle naissance en nous. Et nous avons des attentes de Dieu. Et nous avons une foi qui est bâtie sur lui. La Bible dit que le juste vivra de sa foi. Le juste vivra par sa foi. Puis, enfant de Dieu, si vous ne vivez pas sur votre foi, vous êtes en panne. Il n'y a plus d'essence. Il faut que cette foi soit toujours grandissante dans notre vie et toujours basée sur le Seigneur, non pas basée sur notre foi, non pas basé sur nos sentiments, non pas basé sur notre logique. Même on a compris dans cet appel de Dieu, on ne met pas notre confiance en nous. On ne met pas notre confiance dans une religion, dans une espèce de credo, dans une espèce de croyance. Notre foi est en Jésus-Christ. Notre foi est une foi vivante. C'est personnel, c'est intime, c'est dans notre esprit. Et voilà ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Et nous voulons que cette foi vraiment soit une foi qui accomplit des choses, une foi qui produit les œuvres dans notre vie. Un peu plus loin dans ce chapitre, en disant la promesse, Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham n'a pas négocié. Abraham n'a pas dit, « Ben Seigneur, explique-moi ça encore, là, parce que... tu sais, il y a des choses dans ma vie, puis ça va amener des grandes décisions. Je vais être obligé de laisser les choses. Et Seigneur, ce que tu demandes là, il y a une incertitude là-dedans. J'aimerais que tu m'écris une feuille, là, tu m'expliques ça de A à Z. » Non, non, Abraham dit, « Seigneur, tu l'as dit, tu l'as fait une promesse, je te crois. » Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. On ne comprend pas tout. Peut-être qu'il y en a ici qui comprend tout. Là. Lève votre main, on va prier pour vous tout de suite. Abraham, il avait foi en Dieu. Il a cru à Dieu. Voilà votre appel. Voilà mon appel. Seigneur, tu l'as dit. Je mets toutes choses à côté, mon logique, mon raisonnement, ma grande sagesse. Je mets ça à côté, Seigneur, puis mets ma foi en toi, Seigneur, 100 000 à l'heure. Seigneur, ma foi est en toi. Et puis dans la vie chrétienne, il faut toujours revenir à ça. Il y en a des chrétiens, tu sais, des fois depuis longtemps. Ben, je me souviens un jour, j'ai mis ma foi en Dieu. Gloire à Dieu! Mais cette foi est neuve. Cette foi se renouvelle. Cette foi, justement, on vit de cette foi. Amen! Allons plus loin dans ce chapitre-là. J'ai changé de batterie, là, ça va durer longtemps. Fallait que je le dise. Ça peut aller. Avez-vous amené un lunch? On a bien mangé l'autre jour, mais je ne sais pas s'il en reste là, dans le frigo. Enfin, allons un peu plus loin. 18, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Dieu a fait une promesse à lui et à son épouse, et puis les deux étaient des vieux. Pas comme nous autres, là, mais des vieux, des gens âgés. En plus de cela, Sarah était très âgée et elle était stérile. Imaginez-vous, Dieu vient à eux et dit, vous allez avoir un enfant, l'enfant de promesse. Combien savent que Dieu fait des choses impossibles? Et quelqu'un dit ceci, là, quand vous croyez que l'impossible est logique et raisonnable, votre intelligence est renouvelée maintenant. Vous avez compris. On est des gens qui croient au miracle. On est des gens qui croient à l'intervention de Dieu. On est des gens qui, même si Dieu n'intervient pas, on croit pareil. Notre foi reste tenace. Fait que Dieu est venu à Abraham, il a donné la promesse. Puis combien savent que la promesse a pris un peu de temps? Est-ce que vous donnez du temps à Dieu? Nous vivons dans le temps. Mais dans le temps que Dieu nous donne, est-ce que nous nous regardons vers le Seigneur? Est-ce qu'on attend le Seigneur? Est-ce qu'on s'appuie sur le Seigneur? Est-ce que nos yeux sont sur le Seigneur? Ou est-ce que vos yeux commencent à se tourner vers vous-même, vers les problèmes, vers ce que quelqu'un a dit ou ce que vous vivez? L'Esprit-Saint va vous prendre et va vous ramener à la bonne façon de voir les choses. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous ressuscite. Hein? On est ressuscité ensemble avec lui, mais des fois, il va nous toucher, il va toucher notre façon de voir, notre sécheresse, notre façon de raisonner, et on va confesser ça, et le Seigneur nous ramène et il renouvelle notre foi. Amen. Même ici ce matin, il est là pour te renouveler. Même les quelques moments, on semble, notre foi, notre vie est tournée vers le Seigneur et il renouvelle en nous, puis il met en nous une joie, il met en nous une espérance. Parce qu'on n'est pas de ce monde. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Est-ce que vous voyez comment le monde va présentement? Même depuis qu'on s'est vu il y a quoi, 2-3 semaines, c'est empiré. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a quelqu'un au gouvernail. Il y a quelqu'un qui est le maître de cela. Les tempêtes, les ravages qui se font, la haine, les tueries, les guerres, tout cela, ça fait partie du plan de Dieu. Vous dites, oui, oui, ça fait partie du plan de Dieu parce qu'il y a une nouvelle cité, il y a une nouvelle cité, enfin, peu importe, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. C'est cette même ville qu'Abraham cherchait. Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Moi, je veux cette place-là. Je ne veux pas cette place ici. Il n'y a rien. La foi me fait comprendre. La Bible dit que la foi nous fait comprendre que Dieu a fait toute la création. Mais la foi me fait comprendre qu'ici, ce n'est pas chez nous. Puis, enfant de Dieu, qui que vous soyez, jeune ou plus âgé, ne soyez pas à l'aise ici. Ne soyez pas trop confortable. Amen. Seigneur a autre chose pour nous. Et nous sommes des gens qui ne visent pas ce monde. Nous visons le Seigneur et nous voulons lui plaire. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et le Seigneur est prêt à coopérer, le Seigneur est prêt à faire des grandes choses dans notre vie si on lui ouvre notre cœur. Si on décide, non, nos yeux, c'est pour ce monde, c'est de ramasser les choses, c'est de se faire un nom pour soi-même, c'est pour arranger mes affaires ici-bas, bien, vous allez manquer le bateau. Le Seigneur, il promet tout, mais ce qui arrive, c'est qu'il faut se donner à lui. Lui s'est donné à nous, corps, âme, esprit. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris notre vie. Et finalement, il est mort pour nous sauver. Vous dites, j'ai déjà entendu cela. Oui, mais c'est la plus grande nouvelle que le monde ait jamais connue. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Allons un peu plus loin dans ce chapitre. Espérant contre toute espérance, il crut. La promesse qui lui a été donnée, logiquement parlant, humainement parlant, pas faisable. Pas faisable. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19, Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham, il n'était pas stupide. Il était lucide. La promesse est là, et la promesse a frappé la logique. Mais Abraham, il était simple, il était croyant, et même, il ne voulait pas considérer, « Ben, je suis vieux, Seigneur, écoute, Seigneur, tu comprends mieux que moi, là. Ce n'est pas faisable. » Puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Y a-t-il une promesse qui vous a déjà touché? Y a-t-il une promesse qu'il a insérée profondément dans votre esprit, dans votre âme, même là, et vous vous questionnez, Dieu du Seigneur, comment est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça existe en vous? Est-ce que je sais que Dieu nous fait des promesses. Je sais que les promesses des Écritures deviennent vivantes et le Seigneur veut qu'on les saisisse. Le Seigneur veut qu'on dépose notre foi dans le Seigneur, comme Abraham. Il ne doutait point. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On est fils et filles d'Abraham. Et la foi aussi, il y a un côté agressif. Si vous vivez constamment, il y a un temps qu'on dit, je fais confiance à Dieu. Seigneur, j'attends. Et puis ça, c'est la foi, c'est la vraie foi. Mais il y a aussi des fois, des moments où la foi, c'est agressif, la foi se lève et dit, cette promesse est à moi. Et on le saisit. Le Seigneur veut qu'on fasse. On peut vivre constamment comme ceci, on croise les bras chrétiens. Ah ben, si Dieu le veut. Ça peut être la foi, et ça peut être un cop-out aussi. Ça peut être, oh ben, c'est, hein? Non, Dieu met en nous des sentiments touchés par l'Esprit Saint, appuyés par la parole de Dieu. Seigneur, cette promesse est pour moi. Il y a des places dans la Bible, dans ma Bible, où je mets les dates. Je mets mon nom. Des fois, il y a des gens qui me donnent un passage biblique, ça me touche, et je mets leur nom dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est à cette date-là, le Seigneur a fait vivifier cette promesse. Et c'est comme s'il me disait, Greg, c'est pour toi. Puis des fois, nous, la voix de Dieu, on dit, mais c'est quoi la voix de Dieu? Je ne sais pas quand est-ce que Dieu... Bien, écoute, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un esprit. Dieu est esprit. Et il nous a créés avec un esprit. Pardon. Et quand le Seigneur veut me parler, il parle par mon esprit. Et des fois, on dit, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur? Oui, c'est Dieu! Aligne ça avec ta parole, aligne ça avec ton Seigneur, est-ce que c'est ta parole? Et puis le Seigneur nous parle de cette façon-là. Comment est-ce qu'il va nous parler si ce n'est pas par notre esprit, si ça ne vient pas à nous? Dieu va mettre dans notre cœur les désirs pour glorifier son nom, pour faire les choses pour le Seigneur. On va avec cela. On ne complique pas les choses. Seigneur, si tu mets ça dans mon cœur, Seigneur, je crois que ça vient de toi et je le fais. Et c'est ça la foi. Et Seigneur, si ce n'est pas cela, bloque.
Je dis, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et puis on prie, on est ouvert, on est sincère devant le Seigneur. Et le Seigneur dirige ses enfants. Ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cette foi-là l'a mis en règle avec le Seigneur comme enfant de Dieu, et cette foi-là a glorifié Dieu parce qu'il est devenu le Père de toutes les nations. Amen. Je vois que le temps avance, et puis je veux juste sauter des choses, et je veux aller à un passage dans Luc 18 et 8. Là, il est question d'une femme veuve qui avait un grand besoin, vous connaissez l'histoire. Elle est venue, elle est venue à un juge qui n'était pas gentil, mais elle est venue, puis elle a frappé, en pleine nuit, elle a frappé. Elle avait besoin de nourriture. Et vous savez, à force de frapper, le juge s'est levé. En fait, dans tout cela, il y a un enseignement. Le Seigneur, ce n'est pas le mauvais juge, le Seigneur est le bon juge. Mais à la fin de cette parabole, il a posé une question. Il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Cette femme-là cognait à la porte. Cette femme-là ne voulait pas prendre non comme réponse. Elle était tenace. Elle criait, « Fais-moi justice, donne-moi de la nourriture. » Et il a fait finalement, elle a reçu. Et le Seigneur, en regardant peut-être nous, peut-être notre époque, parce qu'il dit à la fin des temps, il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous sommes dans une crise de foi. Et le Seigneur, il nous a fait grâce, il nous a donné la foi, et nous voulons briller, nous voulons être des gens qui manifestent la foi, des gens qui vivent par la foi. Nous ne voulons pas être emportés par cette incrédulité, et puis ce manque de respect, ce manque d'amour pour le Seigneur. Nous voulons être vraiment ceux qui croient dans le Seigneur, croient pleinement. Allons maintenant, cette même persévérance, dans Hébreux 6, parce que la persévérance, ça, c'est un côté de la foi que le Seigneur veut nous donner, et il nous donne, et il faut regarder ce passage dans Hébreux 6, si je ne me trompe pas, verset 11, oui. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle qu'il conserve jusqu'à la fin une pleine espérance. » Combien de temps est-ce qu'il faut avoir ce zèle jusqu'à la fin? Une pleine espérance. Pas la coupe à moitié pleine. Pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Enfant de Dieu, il y a une fin à notre foi, à nos promesses. Et le Seigneur veut qu'on toffe, qu'on persévère, qu'on soit patient jusqu'à obtenir les promesses de Dieu, jusqu'à obtenir cette vie abondante, éternelle en Jésus-Christ quand le Seigneur revient. Et juste en passant à un côté, là, le Seigneur revient. Si vous ne voyez pas la main du Seigneur dans ce qui se passe présentement dans ce monde-là, j'en viens pas de voir l'empreinte de Dieu. Ceux qui connaissent un peu les prophéties, ça ne doit pas nous faire peur, ça doit nous faire réjouir. Le Seigneur revient, il l'a promis, je le crois. Il le dit, je le crois. Nous sommes des croyants, alléluia. Ce qu'il a dit, c'est promesse. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Moi, je suis avec ce gang-là qui sont prêts. Comme je dis souvent, mes valises sont déjà prêtes. Je n'ai pas à me préparer. Je ne suis pas parfait en moi-même, mais je suis un enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je crois à ses promesses et c'est lui que je veux voir. Il y a un antichrist qui s'en vient. Moi, je ne veux pas le voir. il ne me fait pas peur, tout cela. Enfin, toutes ces choses-là, évidemment, ça m'affecte de voir les souffrances, mais j'ai compris et je vois la main de Dieu là-dedans. Enfin, on n'entre pas, c'est un grand sujet, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que le Seigneur dessine quelque chose de merveilleux. Il nous a dit ce que ça serait à la fin. Et ce n'est pas fini encore. Il y a bien des choses, mais nous sommes de ceux qui sont dans le bateau, dans l'arche. Le Seigneur nous a sauvés et nous serons bientôt avec le Seigneur éternellement sauvés. Encore, et puis ça se termine dans le chapitre 10 d'Hébreux et 35. 10 et 35. Et votre nom est ici. Lisez-le comme s'il vous écrit, parce que c'est de cette façon-là que ça nous a été écrit. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps de foncer dans le tas. C'est le temps de « Seigneur, je suis avec toi, fortifie-moi, Seigneur. Renouvelle l'Esprit Saint en moi. Seigneur, que les choses de Dieu deviennent de plus en plus pertinentes, plus en plus réelles, pour que je vis pour ta gloire ici-bas. Plus tard, ça va être facile dans sa présence pour l'éternité. Mais c'est ici-bas maintenant que le Seigneur veut se glorifier en nous. Je ne veux pas gaspiller la vie. Je ne veux pas gaspiller ce que le Seigneur m'a donné. Je veux l'utiliser. Il faut s'offrir constamment au Seigneur. Me voici, Seigneur. Prends-moi. Envoie-moi. Utilise-moi, Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit Saint fait ça exactement. Quand je suis venu au Seigneur, ça fait déjà maintenant quelques années, Je me suis livré, je me suis donné à lui. J'étais un enfant, mais j'ai compris, je suis à lui. Je lui appartiens. Je ne m'appartiens plus. Ce n'est pas ma vie, c'est sa vie. Et son esprit qui travaille en moi perfectionne cela. Oh, je souhaite ça pour chacun de nous. Je souhaite que le Seigneur nous remplisse. Je souhaite que le Seigneur souffle sur son Église ici, puis dans toutes les églises. Je souhaite qu'on soit une Église de la fin des temps, une Église bouillante, une Église militante, une Église croyante, une Église qui fonce et qui vit pour le Seigneur et sa gloire. Dites-vous amen.
Amen.
Eh bien, on va finir. Ça s'en vient. Les batteries sont bonnes. Toujours dans le chapitre 10, 35, car 36 dit, « Car vous avez besoin de persévérance. » Combien sont d'accord avec cela?
Amen.
Tous besoin de persévérance. « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, » je pense que dans les dieux, « vous obtenez ce que vous avez promis. » Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais... S'il se retire, ça c'est l'autre côté de la médaille. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vais lire ce passage 39 encore, parce qu'il y en a qui sautent dessus, là, qui oublient cela. Ils disent non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je ne suis pas sauvé par une croyance dans une certaine doctrine concernant le salut éternel en Jésus-Christ. Je suis sauvé parce que ma foi est dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et j'y reste. Il est ma vie éternelle. Il y en a ceux qui, aussitôt que quelqu'un vient sauver, là, ils vont les prendre à côté, puis ils vont les force-feed. Là, ils vont, tu sais, bon, OK, maintenant que tu es sauvé, tu es tout le temps sauvé. D'accord dans un sens, mais dans un autre sens, ça prend une tournure que la personne... Vous savez, la Bible me sanctifie. Jésus me sanctifie. Le Seigneur veut que je sois... en lui, pour lui, tout le temps. Mais quelqu'un qui a cette pensée que... Et je comprends, on n'a pas le temps d'expliquer ça ce matin, mais ma doctrine, ma foi n'est pas dans une doctrine, ma foi est dans la vie éternelle, Jésus-Christ. Et la Bible dit ici que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On voit ça, on a vu ça dans les Écritures. Paul dit souvent que tel et tel nous ont abandonnés. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se laissent aller. Nous sommes de ceux qui persévèrent, qui croient jusqu'à la fin en Jésus-Christ. Il y en a qui disent, et puis même quand ils voient que quelqu'un délaisse, quitte le Seigneur, oh, ils disent, savez-vous ce qu'ils disent? Moi, je trouve ça la théologie paresseuse. Oh, c'est parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Vous savez, ça devient fatigant à un moment donné. Ça devient fatigant. Non, c'est le Seigneur a un plan merveilleux, puis le salut, ça se trouve en lui. Ça se trouve avec notre cœur, notre foi en lui. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Une autre écriture, très vite, et on va aller dîner. 1 Jean. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, c'est la foi qu'il met dans notre cœur. C'est dans les Épîtres de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Êtes-vous né de Dieu? Tout ce qui est né de Dieu, la vie de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi qui vient de Dieu. Cette foi que nous épousons, cette foi qui demeure en nous, c'est cette foi-là. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? N'est-ce pas encore une fois, croire qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas juste de croire en, c'est de le croire, c'est de l'accepter. C'est de se donner à lui. Je vous invite de vous lever, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut juste lever nos mains un petit peu, rendre grâce au Seigneur pour son œuvre, pour la foi qu'il nous a donnée, il nous a choisis. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié ici, Seigneur, dans ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta patience avec nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été tellement patient, persévérant avec nous. Et Seigneur, maintenant, tu mets dans notre cœur ce même désir de persévérer. Et surtout, Seigneur, au-dessus de toute chose, c'est de t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, de t'aimer de tout ce qui est en nous, Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur. Je prie pour chaque personne ici, Seigneur. Je prie pour ceux qui peut-être vivent des moments difficiles. La foi peut être ébranlée, mais Seigneur, cette foi est solide parce que c'est toi qui l'as donnée. Je prie, Seigneur, que tu fortifies la foi de chaque personne ici. Et je prie, Seigneur, que même qu'il y ait un souffle nouveau, je prie, Seigneur, qu'on soit de plus en plus sensible, de plus en plus, Seigneur, avec un soin de te glorifier. Et, Seigneur, que cette foi soit placée en toi tous les jours. Je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis. Seigneur, ton œuvre est éternelle. Et, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, parce que ton œuvre ne quittera pas, Seigneur. Ton œuvre, tu restes avec nous et tu nous façonnes à l'image de Jésus-Christ. Je te demande, ô Dieu, par ton Esprit Saint, de faire des grandes choses dans notre vie. Seigneur, remplis-nous de ta présence, ô Dieu, avec une vision renouvelée, avec une vision qui vient de toi. Et Seigneur, jusqu'à toute la Bible parle de toute la plénitude de Dieu. Et Seigneur, que les yeux de notre cœur soient ouverts. Seigneur, de nous-mêmes, de notre intellect, Seigneur, de nos forces à nous, on n'arrive pas. Mais Seigneur, avec toi, alléluia, et par toi, et en toi, nous pouvons faire des exploits, Seigneur. Nous pouvons aller au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, bénis cette journée, bénis cette semaine et que tu sois le centre de tout. Je prie ces choses dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ et son peuple dit,
Amen.
Son peuple dit,
Amen.
Amen. Hallelujah. Dieu vous bénisse.